Bonsoir. Dominique Lambert, docteur en physique et docteur en philosophie. Professeur à l'université de Namur, membre de l'Académie royale de Belgique et consulteur au Conseil pontifical de la culture. Ses champs de recherche sont la philosophie et l'histoire des sciences, les rapports science-théologie ainsi que l'éthique de la robotique. Mais finalement, tout cela ne dit pas grand-chose de Dominique, qui est d'abord un amoureux du Valais, un ami fidèle, un homme profondément croyant, au service de la science et d'abord au service de Dieu. Il aime faire des marches en montagne, partager une bonne bouteille de Petite Arvine, mais ce qu'il chérit avant tout, c'est certainement son épouse et ses deux filles qui l'accompagnent et le soutiennent dans ses aventures. Cher Dominique, un tout grand merci d'être venu depuis la Belgique, depuis Fribourg, en Valais, nous parler de l'homme à travers ton regard de scientifique et de philosophe. Un peu de science éloigne de Dieu, beaucoup de science rapproche de Dieu.
Merci. Merci. Voilà, merci beaucoup Isabelle, merci beaucoup monsieur pour me donner la possibilité, l'honneur et le plaisir de vous parler ce soir. C'est pour moi effectivement un grand plaisir de me retrouver dans le Valais et autour d'amis de cet institut auquel je suis particulièrement attaché et qui compte beaucoup dans ma vie et dans ma vie professionnelle en particulier. Alors, ce que je voudrais faire avec vous ce soir, c'est m'interroger sur l'avenir de l'homme au travers de ce que nous en dit, entre autres, le transhumanisme, pour me poser la question de savoir, y a-t-il quelque chose dans le transhumanisme qui pourrait être pour nous intéressant pour penser l'avenir de l'homme et si oui, à quelles conditions? Donc je prends le transhumanisme comme une manière de penser l'avenir de l'homme qui tente de dire quelque chose sur l'avenir de l'homme mais qui peut-être le dit inadéquatement. Et ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est me poser la question de savoir dans quelle mesure pourrait-on, dans ce mouvement, trouver quelque chose d'intéressant pour penser l'avenir de l'homme à un moment, pourrait-on dire, où l'horizon peut-être semble bouché, où l'avenir de l'homme, de l'humanité, semble en fait se refermer. Hein, à longueur de journée, les médias nous montrent une planète en train de s'asphyxier, des changements climatiques produisant avec des effets en cascade des tas de problèmes économiques, des problèmes humains, des problèmes de conflits, des problèmes géopolitiques, etc. On se trouve confronté dans l'humanité à des tas de voies sans issue et il semblerait que, dans le fond, l'avenir de l'homme n'est pas très, très rose. Et voilà que au milieu de ce paysage un peu obscur se trouvent quelques utopies qui nous diraient quelque chose de l'avenir de l'homme et pourraient essayer de nous extraire ou de nous pousser plus loin que ce monde aux limites trop étroites et aux caractéristiques peut-être de plus en plus déplaisantes. Et c'est de fait ce que cherche à faire l'idéologie transhumaniste au milieu d'un monde qui semble se refermer et s'assombrir. Le transhumanisme semble proposer un dépassement de l'humain qui pourrait assurer un avenir à l'homme. Mais qu'en est-il et à quelles conditions pourrait-il conduire à quelque chose? Alors, vous savez que le transhumanisme est un mouvement très, très varié, mais qui pourrait être défini de la façon suivante. Et je cite ici le professeur Gilbert Autois de l'Université de Bruxelles qui disait « Donc, le transhumanisme est un mouvement philosophique et culturel soucieux de promouvoir des modalités responsables d'utilisation des technologies en vue d'améliorer les capacités humaines et d'accroître l'étendue de l'épanouissement humain. Donc il s'agit d'améliorer les capacités humaines et d'accroître l'étendue de l'épanouissement humain. Alors, comment ? Eh bien, le transhumanisme essaye de le penser à partir d'une sorte de dépassement de l'homme, et cela se fait aujourd'hui, entre autres, par la pensée de l'homme augmenté, de l'homme robotisé. Vous savez que de plus en plus aujourd'hui, on pense associer à l'homme toute une série de moyens, de prothèses qui augmentent ses capacités. Nous sommes déjà en partie entrés dans un monde de transformation de l'humain. Que serait-on sans nos tablettes, nos smartphones, sans ces extensions qui nous permettent en fait de garder, grâce à des prothèses cochléaires, physiques, nos capacités. Nous sommes entrés dans un monde où, dans le fond, sans ces adjuvants, sans ces prothèses, nous ne parviendrons probablement plus à vivre comme nous le voulons. L'autre jour, passant le long d'un champ et m'émerveillant devant le paysage, j'ai vu arriver un agriculteur qui visiblement avait des problèmes avec une de ses bêtes, et je le vois arriver tenant à la main son smartphone. Et ce qui m'a dans le fond émerveillé, c'est que pendant enjambant la clôture et continuant à s'occuper de sa bête, à aucun moment il ne s'est dessaisi de son smartphone, et en dirigeant sa bête, il parvenait à tapoter sur le clavier et à consulter probablement une page Facebook. Donc ce qui m'a frappé, c'est une sorte d'extension intelligente, si vous voulez, de la main du fermier, qui était un peu comme le prolongement, disons, électronique de cette main qui faisait un geste tout à fait naturel dans le cadre de l'agriculture. Il semble bien que parmi mes étudiants, la forme des crânes a un peu changé, puisque bon nombre de ceux que je rencontre ont désormais des espèces de prothèses qu'ils n'enlèvent pas lors de mes cours, non pas parce qu'ils manquent de politesse, mais parce que en fait, ça fait partie de leur physionomie aujourd'hui, et peut-être de l'extension de leur capacité d'avoir en permanence un accès à l'information extérieure. Donc, de plus en plus, je constate qu'il est difficile, durant un cours, de se passer non seulement de l'écran d'ordinateur, mais de l'ouverture de trois pages à la fois. Donc, une page qui sert à prendre note, une page sur laquelle on a Facebook, une autre où le courrier électronique arrive en permanence, et en même temps la tablette servant à photographier le tableau que je viens de remplir de formules. Donc j'ai devant moi, d'une certaine manière, des êtres augmentés, des sortes de cyborgs encore humains, bien entendu, mais largement modifié par la technologie, et n'imaginant pas se défaire de cela. Regardez autour de vous et faites une petite statistique en voyant combien de personnes tient à la main son smartphone. C'est assez intéressant de voir que ça la fait partie désormais de notre augmentation, et le geste le plus standard que l'on voit autour de nous est ceci. Le développement peut-être d'un seul doigt va, l'évolution va peut-être nous doter d'un seul doigt très performant pour faire comme ça. Peut-être que même le clignement des yeux permettra de faire défiler les pages. Donc en fait, on se dit, nous ne sommes pas encore dans l'ère du transhumanisme au sens peut-être de la fiction, mais on y est déjà rentré fameusement. Et alors ma question est de savoir évaluer cet apport dans le cadre d'un avenir de l'homme. Et mon propos sera non pas, comme cela pourrait apparaître dès les premières minutes de mon exposé, un propos technophobe, car je pense que de fait cette évolution ou ce recours à une série d'augmentations de l'humain fait partie de l'humain et, bien entendu, peut avoir des effets extrêmement positifs. Hein. Si l'on pense à des implants cochléaires, si on pense à l'augmentation de certains patients par des nanorobots capables de contrôler un certain nombre de paramètres physiologiques et de répondre en temps réel à des déficits qui les empêchent de vivre correctement. Et si on pense aussi aujourd'hui à la fabrication d'exosquelettes extrêmement perfectionnés qui permettent de redonner la mobilité à des enfants tétraplégiques grâce à des systèmes qui, disons, connectés sur le cerveau, envoient des influx à un ordinateur qui lui-même pilote une sorte de squelette artificiel. Pourrait-on s'opposer à ce genre d'augmentation de l'humain, alors même qu'ils permettent, elles permettent à l'humain finalement de retrouver une qualité de vie qu'il avait perdue. Le tout, évidemment, est de savoir jusqu'où aller, dans quelle mesure est-ce que cette augmentation peut être, oui ou non, dans le sens de ce qu'on pourrait appeler un avenir durable et confortable et acceptable de l'humanité. On pourrait dire que le monde qui nous entoure est un monde de plus en plus informatisé, mais demain, ce monde sera largement robotisé. Donc aujourd'hui, on voit arriver massivement l'environnement virtuel. Nous vivons dans un monde dans lequel une grande partie de notre espace est celui de l'espace virtuel. Bien sûr, vous vivez dans cette belle région du Valais où géographiquement vous vous déplacez, mais en réalité, vous vous déplacez dans un monde en permanence virtuel. Vos achats, peut-être, vos contacts vous permettent de vous déplacer dans un monde qui n'est plus le monde physique, mais qui est le monde virtuel. Le monde occupe, dans le fond, cette dimension supplémentaire qu'est le monde du virtuel, avec des aspects tout à fait positifs, mais aussi des aspects négatifs, puisque, comme dans le monde réel, on peut faire la guerre tout court ou la guerre économique. Dans le monde, dans le cybermonde, on peut lancer des attaques extrêmement, aux conséquences extrêmement graves pour l'économie, pour la sécurité des pays ou même pour le bien-être des personnes, puisque il ne faut pas l'oublier, beaucoup de problèmes relationnels et peut-être une violence entre personnes se passe dans et par les réseaux sociaux. On peut, et on connaît des cas de personnes que l'on peut tuer via des rumeurs propagées sur des pages de médias sociaux, etc. Bon. Donc, en fait, nous vivons largement dans ce monde qui est virtualisé, mais de plus en plus arrive une révolution supplémentaire qui est le monde de la robotique. Si dans nos pays elle se limite encore à quelques exemples, si vous voulez, plutôt amusants, comme des robots ludiques, hein, comme Nao, qu'a fait la société Aldebaran, en Asie, et en Asie, par exemple au Japon ou en Corée du Sud, on nous prévoit pour les années qui viennent un robot par famille d'ici 2 ou 3 ans. La Corée du Sud a fait inscrire dans une charte qu'elle espère intégrer dans sa constitution pour les droits et les devoirs envers les robots. Et très récemment, en avril, 2016, un rapport des communautés européennes, le rapport Delvaux, se posait la question du statut juridique des systèmes robotisés. Donc, donner aux robots, et en particulier aux robots autonomes, un statut juridique très particulier qui ne serait plus celui d'une chose ou d'une personne, et pas celui d'une personne humaine, mais calqué, par exemple, sur le statut d'une personne morale, avec des fonds de dédommagement, servant au dédommagement en cas de dégâts produits par les robots. Donc, les communautés européennes elles-mêmes pensent déjà une sorte de personnalité, à conférer aux robots une sorte de personnalité électronique. Aujourd'hui, on pourrait penser que c'est de la fiction, mais les juristes autour des communautés européennes s'intéressent énormément à cela, et désormais, il existe des réseaux, des fédérations de cabinets d'avocats qui s'intéressent uniquement à la question du droit des robots. Je citerai par exemple le réseau Lexing, qui est piloté par les Ben Souzan et qui sont spécialisés dans le droit spécifiquement de la robotique. Bon. Ceci nous annonce, si vous voulez, une robotisation de l'environnement, et demain, avec le vieillissement de la population, l'avenir de nos sociétés passera par le contact avec ces machines. Dans les hôpitaux japonais et sud-coréens aujourd'hui, il n'est pas rare de rencontrer donc, dans les couloirs des hôpitaux des robots qui viennent de la pharmacie de l'hôpital et qui vont porter les médicaments aux patients en leur suggérant de les prendre. Et s'ils refusent, des systèmes sont prévus pour éventuellement leur redemander et, en cas de refus total, d'alerter le médecin qui convient. De plus en plus de maisons de repos et de soins au Japon, vu la pyramide d'âge inversée, eh bien, se voit envahi par des robots de compagnie, et l'avenir de ces personnes âgées passe par les contacts avec ce genre de machines, avec des aspects peut-être intéressants, comme on peut avoir des aspects intéressants en consultant, si vous voulez, son ordinateur ou en jouant avec son ordinateur, mais avec des aspects angoissants, car si l'avenir de nos aînés doit passer par une sorte d'abandon à des machines, il y a peut-être de quoi se poser des questions. Maintenant, mon propos, comme je l'ai dit, ne peut pas être celui d'un combat contre les robots. Dans certains cas, des robots de compagnie peuvent jouer un rôle extrêmement positif, et je prendrai le cas, par exemple, des enfants autistes qui ont d'immenses difficultés relationnelles avec les personnes humaines, mais qui, curieusement, sont très facilement, disons, font des progrès de socialisation lorsqu'ils peuvent communiquer avec, par la médiation d'objets techniques tels que les écrans d'ordinateur ou les robots. Donc, on pourrait dire, de la même façon que nos réseaux sociaux, nos informatisations nous amènent à développer, à voir l'avenir de l'homme dans des univers, disons, virtuels, largement artificiels, avec des aspects positifs et négatifs, de la même façon, nous allons avoir le même problème avec les robots. Et dans le fond, cet avenir, qu'est-ce qui doit nous faire peur dans cet avenir ? Mais probablement qu'on doit avoir beaucoup plus peur de nous dans l'avenir que des robots. Car dans le fond, le risque majeur vient peut-être non pas des machines, mais vient de nous-mêmes. Pourquoi ? Parce que, dans le fond, l'homme a une furieuse tendance à s'attacher aux machines. On s'est attaché à son ours en peluche. Même des aînés, peut-être, ne veulent pas s'en séparer ou ne s'en sépareraient pas facilement. On s'attache à des animaux de compagnie. Mais aujourd'hui, on voit que certaines personnes s'attachent à des systèmes électroniques et s'attachent à des robots, parce que d'une certaine manière, le robot, comme l'animal de compagnie, souvent ne vous contredit pas. Et le robot a cette tendance, qui est tout à fait implémentée dans son système, de pouvoir même vous dire les choses que vous aimez et ne jamais vous contredire. L'effet d'attachement aux objets techniques est quelque chose de tout à fait sidérant. Le phénomène a été mis en évidence en Afghanistan avec des troupes qui utilisent des robots militaires, le PAC-BOT par exemple, qui est un petit robot de reconnaissance et de déminage qui peut être armé. Et c'est un robot qui rend des grands services et qui est d'ailleurs fabriqué par la firme qui fait des aspirateurs autonomes, Roomba. Et lors de missions, ces robots sont parfois endommagés. Eh bien, plusieurs rapports montrent que les troupes ne veulent pas des nouveaux robots, sont tellement attachés à leurs machines, si vous voulez, qu'ils préfèrent avoir des robots moins performants réparés parce que c'était leur robot qui a toujours vécu avec leur section, etc., plutôt que d'en avoir un nouveau et de balancer celui qui est endommagé à la poubelle. Une sorte d'investissement, si vous voulez, qui est fait sur les machines. Et dans le fond, c'est peut-être cela qui doit nous alerter parce que dans l'avenir, nous allons peut-être nous laisser enfermer par l'objet technique, comme il existe aujourd'hui un phénomène d'enfermement dans ce monde des ordinateurs, dans ce monde des écrans qui de plus en plus polarisent et nous ouvrent à un monde, mais aussi nous enferment. On doit peut-être avoir peur de nous-mêmes, parce que d'une certaine manière, nous avons aussi la furieuse tendance de déléguer pas mal de pouvoir à des machines quand nous sentons que les machines sont plus performantes que nous dans certains domaines. C'est un phénomène qu'on voit de plus en plus, si vous voulez. L'homme se dote de moyens extrêmement performants de calcul, hein, de gestion de toute une série de paramètres avec une vitesse extrêmement grande. Mais ce qui est tout à fait interpellant, c'est l'étrange capacité de l'humain de se complexer face à la machine. Non seulement on parlait d'une sorte de Jean-Michel Beignet a bien parlé en citant Gunther Anders, d'une sorte de fatigue d'être humain, la fatigue d'être simplement soi, la fatigue d'être simplement un être fini qui a des moyens de calcul très très lent et des capacités très, très lentes. Il y a une sorte de fatigue ou de complexe d'être simplement humain, mais ce complexe amène à déléguer à la machine des capacités importantes avec une sorte de facilité ou d'aisance à se défaire de ses propres responsabilités. Je donne simplement un exemple que moi-même j'ai vécu et qui, d'une certaine manière, peut poser des questions. C'est lors de nos délibérations à l'université, lorsqu'il y a des auditoires qui comportent, ou des amphis qui comportent beaucoup d'étudiants, comme c'était le cas en faculté de médecine, lors des concours, si vous voulez, on ne peut évidemment pas se tromper sur le calcul des notes des étudiants, et donc on fait appel à des programmes extrêmement sophistiqués qui calculent les notes en faisant toutes sortes de pondérations, bon, le logiciel étant fait pour cela. Et la première fois que j'ai été confronté à ce système, on nous a dit il suffisait de signer, enfin d'arriver à la réunion, à la délibération, et de signer le protocole de délibération. Mais comme j'ai un arrière-fond un peu critique, j'ai dit, mais je ne peux pas signer immédiatement, pourquoi devrait-on signer quelque chose sans avoir discuté? Mais le président du jury m'a répondu, mais la machine calcule mieux que vous, plus vite que vous. Vous allez sûrement, puisque vous êtes un philosophe, vous allez sûrement vous tromper. Et donc, nécessairement, vous devriez donc faire confiance à la machine. Bon, un peu frustré. J'allais me résigner quand tout à coup je m'aperçois sur la feuille que une étudiante avait effectivement raté le concours. Or, nous savions, quelques collègues et moi, qu'il s'agissait d'une étudiante extrêmement brillante, très prometteuse, qui avait réussi parfaitement tous les autres examens, mais avait raté un seul examen, et la raison était, dans le fond, qu'elle avait perdu ses parents durant la session d'examen, et que le jour de l'enterrement se trouvait précisément un examen, et elle n'y avait pas été, bon, pour cette raison-là. Et j'ai dit, mais enfin, ce n'est pas possible, enfin... Une délibération sert justement à éventuellement faire réussir quelqu'un parce que en conscience, on peut admettre que c'est un accident tout à fait explicable. Et, voilà. Ah, mais on m'a dit non, la machine n'a pas prévu cela et vous devez vous remettre à l'algorithme. Et malheureusement, hein, on est tout à fait désolé pour vous et pour l'étudiante, mais l'algorithme n'a pas prévu. Ce cas-là. Bon, j'ai dit, mais enfin, le jury est souverain, ça c'est la loi, on peut... la machine... Oui, si on commence à remettre ça en question, vous savez, qu'est-ce qu'on pourra faire? Et puis il faudra refaire le programme, vous comprenez? Bon, ça c'est... Vous voyez, de quoi doit-on avoir peur dans l'avenir de l'humanité? Évidemment, il y a une tendance à projeter les causes des causes néfastes pour l'avenir, dans éventuellement des choses qui nous échappent. Mais nous sommes aussi largement responsables de nos phénomènes d'enfermement et d'esclavage qui vont aussi nous détruire. Et c'est une réflexion qui n'est pas neuve. Bernanos, hein, le grand écrivain Bernanos, avait écrit dans les années 40, juste après la guerre de 40, un livre sur les robots, justement, sur l'introduction des robots et des problèmes que les robots pouvaient introduire, surtout d'ailleurs économiques. Mais quand on lit ce livre, on ne peut s'empêcher de penser que, en fait, l'avenir doit nous faire peur parce que, dans le fond, nous devons avoir peur de certaines attitudes naturelles que nous avons et d'une tendance, d'une certaine manière, à abandonner progressivement un certain nombre de responsabilités que nous devons avoir. Parfois, par fascination de la technologie, vous voyez, l'algorithme a dit, c'est l'oracle, la machine qui est plus performante que vous. Et c'est vrai que la machine est plus performante que nous, mais dans certains cas, la machine ne fait pas mieux que vous. Et dans toute une série de situations, on peut montrer de dilemmes justement moraux, de problèmes où on hésite parce que est en jeu quelque chose d'imprévu, eh bien la machine ne fait pas mieux que vous et vous ne faites pas mieux que la machine. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de raison de s'en remettre totalement et aveuglément à un système informatisé. Bon. Dans cette question-là, on voit bien, si vous voulez, que dans certains cas, il est tout à fait utile de s'en remettre à des machines et il serait peut-être fou et aussi peut-être inhumain de ne pas les utiliser. Hein. Laisser quelqu'un qui est mutilé avec ses problèmes et risquer de voir sa qualité de vie diminuer drastiquement alors qu'on a les moyens par des prothèses de lui redonner une qualité de vie, ce serait proprement inhumain. Mais d'autre part, on voit bien que faire une confiance aveugle et s'en remettre sans discernement et comme naturellement à la décision d'une machine, eh bien, doit nous faire peur dans l'avenir. Alors, ce que je voudrais dire, c'est que ce que je voudrais cerner, c'est justement ce point-là. Dans quelle mesure pouvons-nous développer une pensée qui va nous permettre d'aborder un avenir technologique et des augmentations éventuellement des capacités humaines qui restent pleinement cohérents avec l'humanité. Alors, ce qui est en jeu dans le transhumanisme, ce qui est probablement dangereux dans le transhumanisme, c'est une idée de transformation et de dépassement de l'humain qui serait, dans le fond, contradictoire avec l'humain. On pourrait se retrouver, et souvent, des gens comme Fabrice Hadjadj l'ont souligné aussi, mais d'autres penseurs aussi, c'est que l'homme augmenté, l'homme voulant s'augmenter, devient finalement un homme diminué, et devant même, d'une certaine manière, se diminuer pour s'augmenter. On a vu ces derniers temps des personnes qui éblouies par les performances des prothèses qui étaient greffées sur des personnes handicapées et qui, aux Jeux paralympiques, pouvaient courir peut-être plus vite que des gens ayant des jambes normales, des gens demandaient éventuellement à se faire mutiler pour se faire greffer une série de prothèses qui leur permettraient de courir plus vite. On a vu aussi des gens demander, et ça c'est tout le thème du biohacking, donc de toute cette augmentation de l'humain qui a simplement pour but d'étendre vos capacités à l'aide d'un certain nombre de mutilations, mais d'augmentation simplement pour le désir d'être augmenté. J'ai vu la réalisation en Angleterre d'une greffe sur le cerveau humain de caméras infrarouges demandées pour stimuler certaines zones du cerveau à partir d'informations infrarouges pour donner, si vous voulez, pour étendre le spectre des sensations possibles de l'humain. Aux États-Unis, on a vu toute une série d'opérations visant à introduire sous la peau des capteurs magnétiques permettant aux personnes de ressentir des choses lorsqu'ils passent près des champs magnétiques puissants, etc. Bon, augmentation qui, dans le fond, nécessite une diminution ou détruise quelque chose de la cohérence, de l'unité, peut-être aussi des limites intéressantes de l'humain. Car, dans le fond, il y a l'idée que l'homme doit nécessairement être augmenté parce que ses limites seraient nécessairement négatives. Mais là est toute la question. Alors, on se rappelle que en dessous de ce projet transhumaniste, il y a quelque chose qui passait et qui était déjà passé dans la culture, puisque si on relit par exemple Pic de la Mirandole dans son discours sur la dignité de l'homme, on découvre la chose suivante, et je le cite, Pic de la Mirandole dit ceci: toi, homme, hein, aucune restriction ne te bride, c'est ton propre jugement auquel je t'ai confié qui te permettra de définir ta nature. Doté pour ainsi dire du pouvoir arbitral et honorifique de te modeler et de te façonner toi-même, tu te donnes la forme qui aurait eu ta préférence. Donc, il s'agit de quelque chose qui est écrit bien avant le transhumanisme, mais qui déjà annonce cette volonté de mettre la main sur soi pour se façonner à sa guise. Et c'est bien là, évidemment, qu'est le problème. Mais ce qui se trouve à la base du transhumanisme pose des questions. Pose des questions dans le sens où y a-t-il quelque chose de positif en dessous de ce mouvement qui pourrait, d'une certaine manière, s'il était bien évalué et contrôlé, de fait, conduire à un avenir de l'homme qui serait intéressant, ou bien est-ce effectivement quelque chose qui est gravissime et qui devrait être dès à présent arrêté. Deuxième question, y a-t-il d'une certaine manière sous le transhumanisme quelque chose qui pourrait se retrouver en opposition frontale, par exemple avec l'anthropologie chrétienne, avec l'image que dans le christianisme on se fait de l'humain. Ce qui est à ce propos inquiétant, et comme Gilbert Rotoil le signalait dans son ouvrage « Le transhumanisme est-il un humanisme ?», écrit aux presses de l'Académie de Belgique, il disait la chose suivante: « La majorité des transhumanistes se présentent comme agnostiques ou athées, laïcs et libres penseurs. Le transhumanisme est porté par un acte de foi optimiste, volontariste dans le futur, volontariste, dans le futur, dans la créativité et la responsabilité humaine. Et dans un livre récent, Luc Ferry, dans La révolution transhumaniste, conforte cette position en liant, dans le fond, l'idéal transhumaniste au rationalisme matérialiste et athée. La question que je voudrais poser, c'est justement, y a-t-il un véritable danger dans la perspective ou dans ce qui pourrait se trouver entre dans le transhumanisme? Y a-t-il quelque chose de positif, ou doit-on penser que c'est essentiellement un danger pour l'avenir de l'homme? Deuxième chose, y a-t-il dans le transhumanisme quelque chose qui serait viscéralement opposé au christianisme, ou y a-t-il quelque chose dans le transhumanisme qui pourrait être cohérent avec une anthropologie chrétienne? Alors, ces questions-là, dans le fond, ont déjà été posées, et avaient déjà été posées dès les années 40. J'ai parlé de Bernanos, qui pensait déjà à l'introduction de la robotique, et là, doit-on avoir peur des robots? Mais fin des années 40 voit le développement de la cybernétique, des systèmes asservis, qui est une des bases de, finalement, des systèmes robotisés. Et dans ce cadre, Norbert Wiener, qui était au MIT, non seulement un très grand mathématicien, mais aussi le père de la cybernétique, et aussi quelqu'un qui avait une dimension philosophique, Norbert Wiener avait eu un débat avec le dominicain français Dubarle, et posait déjà, le père Dubarle posait déjà à l'époque à Wiener toute une série de questions, et je vous lis quelque chose qui est issu du livre de Wiener, Cybernétique et Société, qu'il avait, dans lequel il dit ceci. Il dit, le père Dubarle a attiré l'attention, dit Norbert Wiener, sur la mécanisation croissante du monde militaire et politique, tel un grand appareil surhumain basé sur les principes de la cybernétique. En vue d'en éviter les multiples dangers, à la fois internes et externes, il a raison d'insister sur le besoin de philosophes et d'anthropologues. Autrement dit, on doit, en tant que scientifique, avoir une idée de la nature humaine et de ses buts essentiels, disait Norbert Wiener, pour juger de la pertinence ou non du développement de la cybernétique. Et donc je vais essayer, pour dans la suite de l'exposé, d'essayer de poser la question de savoir pourrait-on penser à une série de balises qui nous permettraient de guider ce qui pourrait être des augmentations de l'humain, des robotisations de la vie humaine ou de l'utilisation de robots sophistiqués qui restent justement en cohérence avec une image cohérente, non contradictoire de l'humain. Quand je dis non contradictoire, il est clair que l'homme augmenté deviendra homme diminué si ces augmentations se retournent ou nient simplement l'être humain. On pourrait imaginer une augmentation telle de l'humain que l'humain se robotise lui-même et robotise la société qu'il a autour de lui, avec, à la limite, une société dans laquelle il ne peut plus rien décider lui-même, que la machine n'est pas acceptée. Notez que on peut déjà sentir quelque chose de cela, puisque en permanence vous engendrez des données qui sont récupérées sur les réseaux, et en permanence on sait quels sont vos trajets, dans quel magasin vous allez, quels produits vous achetez, grâce à vos cartes bancaires, etc. Et sur votre ordinateur, vous découvrez des propositions en temps réel de produits qui vous intéressent. Moi, je suis plutôt de nature naïve, et comme ça ne m'intéresse pas beaucoup à ce qui se passe dans les supermarchés, si vous voulez... parce que je suis un mauvais mari qui fait rarement les courses, d'une certaine manière, j'avais la naïveté de croire que quand je vais sur l'ordinateur, je ne découvre que ce que je cherche. Et d'une certaine manière, progressivement, je découvrais qu'on me proposait des tas de choses, de livres, de bon, et qui en plus m'intéressaient, et je me demandais comment les gens avaient fait pour me proposer des choses qui m'intéressaient, si vous voulez. De plus en plus, nous sommes dans un monde où, dans le fond, on ne vous demande pas si vous voulez acheter tel type de vin, qu'on vous propose tel type de livre en philosophie, etc. On vous les met sur votre écran avec des choses qui clignotent, de plus en plus, vous avez des choses que vous n'avez pas demandées. Mais petit à petit, votre monde est colonisé par un monde qui prend des décisions et celui qui est derrière les commandes, c'est personne. Ce sont des machines qui, automatiquement, sur base du data mining, de l'analyse des milliers de données, des millions de données que vous générez vous-même sans vous en rendre compte, dès que vous allumez votre GPS, votre tablette, etc., vous enferme dans un monde où, automatiquement, on vous propose des choses. Donc, demain, nous allons nous enfermer dans un monde qui va, dans le fond, peut-être nous écraser. Et ceux qui nous écraseront n'auront plus de figure. Hein. Je prends un exemple. On sait que la presse, comme les pages Facebook, etc., peuvent être assassines. Les médias, aujourd'hui, il suffit de voir l'actualité en France, les médias peuvent faire la pluie et le beau temps, peuvent dire des choses, et le contraire, mais qui dit ces choses-là? Ce sont des journalistes, ce sont des présentateurs de radio, etc. Mais aux États-Unis aujourd'hui, il existe sur plusieurs sites des journalistes virtuels. Donc il existe des robots qui, en temps réel, recueillent des informations sur une série de sujets, par exemple le sport, la finance, et qui, en temps réel, plus rapidement que n'importe quel journaliste, vous fait une synthèse des informations et vous compose un papier virtuel qu'il injecte immédiatement sur le réseau sans la médiation d'un rédacteur en chef, d'un correcteur, etc. Bon. Mais qu'en est-il de ce monde qui va pouvoir décider, par exemple, d'assassiner un homme politique, je veux dire verbalement, hein, ou de démolir, lors d'une critique d'art, un musicien, un peintre, un poète, parce que le système a recueilli une série d'informations disant que c'est très mauvais et va faire un petit papier amplifiant cela. Oui. De plus en plus, on pourrait se retrouver devant un système qui, apparemment, augmente nos capacités, mais qui, en réalité, progressivement, nous écrase. C'est pour ça que je dis, dans le fond, un des premiers critères qui nous permettrait de juger de ce développement, savoir si ces technologies seront l'avenir de l'homme, c'est un critère d'autocontradiction. C'est-à-dire, dans la mesure où le système d'augmentation va nous conduire à nous asphyxier et à nous écraser, alors, de fait, nous ne devons pas entrer dans cette logique-là. Mais il y a de fait un risque. Mais comme je ne veux pas voir les choses uniquement négativement, je pose la question de savoir quelles sont les balises qui nous permettraient de juger d'un développement possible intéressant de l'augmentation des capacités de l'homme. Bon, alors, j'ai parlé de la balise du refus de l'autocontradiction. Pour refuser un homme augmenté qui serait en fait un homme diminué ou plus un homme du tout, mais il pourrait y avoir aussi la balise de la responsabilité. En fait, dans la délégation, dans l'augmentation de l'homme, il y a l'idée que de plus en plus, nous allons faire des systèmes performants qui feront des choses à notre place et où notre présence sera, dans le fond, diminuée. Hein. L'homme augmenté, c'est en fait un homme qui diminue sa place parce qu'il diminue sa capacité de décision. Hein. Par exemple, on va dire qu'il est intéressant dans les conseils d'administration, par exemple à Hong Kong, il y a un conseil d'administration dans lequel on a, parmi tous les actionnaires, un actionnaire virtuel. Donc c'est un robot qui a une connaissance de toutes les bases de données de l'entreprise, qui est en permanence est connecté avec les cours de la bourse, etc., qui connaît tout le corpus juridique nécessaire pour l'entreprise et qui, plus vite que vous, va intervenir dans le conseil d'administration. Il n'a pas, bien sûr, une voix délibérative, mais il a d'une certaine manière, une présence consultative, et il peut intervenir automatiquement en disant « non, ça, ce n'est pas conforme à la loi, non, ça, ça va diminuer les profits de l'entreprise, etc. » Donc, en fait, homme, conseil d'administration augmenté, mais l'augmentation veut dire la diminution d'une place humaine et éventuellement une restriction du pouvoir de décision, parce que qui pourra oser s'opposer à la machine qui sait tout ? Puisqu'elle connaît beaucoup plus de choses que vous, par le phénomène que je décrivais tout à l'heure, la fascination des performances technologiques, la tendance, ça va être de s'en remettre aux mains de la machine qui fait mieux que vous, avec une sorte de diminution de votre pouvoir, si vous voulez, décisionnel. Et autre phénomène, le phénomène de délégation, pour des raisons qui, elles, ne sont moralement illicites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit une utilisation, une augmentation des capacités de l'homme par des moyens robotisés, mais qui sont des moyens détournés de faire des choses que nous n'oserions pas faire nous-mêmes en tant qu'humains et qu'on laisse faire à des machines. Donc si vous pensez simplement au domaine de la décision automatisée dans le domaine, par exemple, militaire, une des questions qui occupe les conférences sur le désarmement à l'ONU, entre autres la conférence sur les armes classiques, c'est de savoir si on peut, oui ou non, admettre ce qu'on appelle avec un drôle de mot les laws. Laws, qui veut dire les lois en anglais, mais qui est l'acronyme pour Lethal Autonomous Weapon System, les systèmes d'armes létaux autonomes. Des systèmes d'armes autonomes qui ont cette capacité de tuer. Alors, peut-on, oui ou non, laisser des pouvoirs de décision en termes de vie et de mort à des machines automatisées ? Une série d'ONG, la Croix-Rouge, mais aussi le Saint-Siège, ont demandé très fortement, ont insisté sur les dangers de ces systèmes. Quel est le danger de ces systèmes ? Alors, on pourrait dire qu'il est légitime de développer des systèmes de réaction rapide qui permettent de protéger vos soldats contre un tir de missile. Et, d'une certaine manière, le temps de réaction étant tellement court, dans des territoires où il n'y a pas de civils et où on demande une protection, il peut être légitime, par légitime défense, de contrer une menace, un tir de mortier ou de missile, etc. Mais ce qui est plus problématique, c'est le développement d'armes, sachant que s'il y a des dégâts collatéraux faits par des machines autonomes, il est toujours plus simple de dire, dans le fond, que ce n'est pas moi, c'est la machine. Si un pilote largue une bombe sur un hôpital, vous voyez, immédiatement, il peut être traduit devant une juridiction militaire, si vous voulez. Mais aujourd'hui, on dit un drone a éliminé telle personne en Somalie, par exemple. Un drone, c'est le drone. Mais derrière le drone, il y a des gens éventuellement qui le téléopèrent. Dans les armes autonomes, il y a des gens qui ont programmé, qui ont décidé de mettre en œuvre. Mais c'est la machine qui tue. Curieusement, les journaux disent un drone a éliminé une cible. Disparaît celui qui a mis en œuvre le système. Tandis que si un chasseur tire sur un groupe de personnes dans lequel il y a des photographes, des civils, etc., tout de suite, au nom du droit international humanitaire, on va dire, vous n'avez pas respecté le principe de distinction entre civils et militaires, cette réaction est disproportionnée, vous auriez dû utiliser autre chose, etc. L'humain va être responsable. La machine, elle, évidemment, celui qui fait faire un acte délictueux par quelqu'un d'autre, c'est comme s'il était lui-même responsable. Mais comme il est facile de se cacher derrière l'écran technologique. Et ce qui peut faire peur aussi dans l'utilisation des technologies dans le futur, c'est que la technologie peut, de par sa structure de médiation, devenir un écran facile pour se cacher et cacher des responsabilités d'actes qu'on ne voudrait pas immédiatement faire, si vous voulez. Alors on pourrait se dire, si, on pourrait toujours traduire les responsables devant des juridictions appropriées, mais celui qui a vu la machine faire des choses qu'elle ne pouvait pas, mais qu'il arrange, pourrait toujours dire « Oui, mais enfin, c'est un dysfonctionnement du programme, du système mécatronique, etc. » Et on est parti dans des procès. qui a raison, qui a tort, et pendant des années, on va reporter le problème pour épingler au bout de 10 ans peut-être le responsable, mais tout le monde a oublié cette affaire-là, et plus personne n'y pense, et peut-être qu'on va prononcer un non-lieu, etc. Donc la médiation technologique est quelque chose qui permet un écrantage qui va devenir de plus en plus important. Donc, après cette balise du refus de l'autocontradiction, hein, qui consiste à dire « je ne veux pas un système augmenté qui me fait de moi un homme diminué, restreint, écrasé », on pourrait proposer la balise du maintien du sujet responsable. L'avenir technologique, si vous voulez, ou l'avenir de l'homme augmenté, passe par un respect total du sujet responsable, du sujet éthique ou du sujet juridique, si vous voulez. Certaines augmentations se traduiront par le fait de nier ou d'occulter les responsabilités. Et donc, dans le fond, un développement des technologies au service de l'humain, une augmentation de l'humain par des moyens technologiques, ne pourra rester pleinement humain que si l'homme reste responsable des technologies qu'il met en œuvre. Le gros problème, c'est que le recours à des technologies de plus en plus autonomes font, d'une certaine manière, cache ou font échapper à l'homme un certain nombre de choses. Une machine pleinement autonome, capable d'apprentissage et de reprogrammation, comment va-t-elle être délimitée, si vous voulez, comment va-t-on la limiter son champ d'action pour que l'homme puisse dire de fait qu'il reste responsable de ses actions. S'il ne le fait pas, s'il ne délimite pas le champ précisément, alors il devient complètement irresponsable. Or, nous sommes dans une société qui, de plus en plus, tend à multiplier les machines autonomes. Nous nous augmentons par des technologies autonomes. J'ai parlé des journalistes virtuels, autonomes. J'ai parlé, aujourd'hui, on pourrait parler du e-trading, de la finance électronique, où, sans la médiation de l'être humain, des systèmes qui acquièrent de l'information financière, la traitent, peuvent lancer des ordres d'achat et de vente à des vitesses extrêmement rapides. On pourrait aujourd'hui aller jusqu'au million de transactions par seconde, sans évidemment médiation humaine, avec une perte totale de la véritable responsabilité de l'acteur économique. Donc, le développement, si vous voulez, responsable, durable, acceptable des technologies au service d'une augmentation des capacités de l'humain ne pourra se faire que si l'homme accepte de garder la responsabilité profonde de ses actes. Et aujourd'hui, dans la discussion à l'ONU sur oui ou non, pourra-t-on accepter des machines de combat douées d'une large autonomie, se trouve cette question de la responsabilité. Et je vous rappelle que un des conciles du Latran avait autrefois interdit l'arbalète parce que, dans le fond, l'arbalète pouvait, à distance, tuer, par la flèche se déviant, tuer quelqu'un qui n'était pas un combattant. Donc l'arme devenait, dans le fond, imprévisible. Et au nom de l'imprévisibilité, le deuxième concile du Latran, si je ne m'abuse, a interdit l'usage des arbalètes. Mais aujourd'hui, dans le débat sur les armes autonomes à l'ONU, cet argument est revenu à la surface, curieusement. Et est revenu parce que, dans le fond, l'arme autonome ou le système autonome est, par définition, un système imprévisible. Mais comment maintenir à la fois une responsabilité d'un acteur au point de vue juridique et éthique en mettant en jeu un système qui est largement imprévisible? Donc, je proposerais, si vous voulez, comme balise du développement des systèmes, d'éviter, dans le fond, pour que le système reste au service de l'humain et sous le contrôle de l'humain, que jamais ne soit perdu, si vous voulez, ne soit occultée, cette question des responsabilités. On peut, jusqu'à un certain point, penser des systèmes autonomes. Vous voyez, par exemple, pendant tout un temps, comme beaucoup de monde, je pensais que les systèmes autonomes pouvaient être en soi justement très dangereux parce que risquant d'occulter les responsabilités, etc. Mais bien entendu, après le crash de l'avion de la Germanwings, un certain nombre de personnes se sont posées des questions parce que si un système autonome de pilotage avait été embarqué dans ce genre d'avion, il aurait pu de lui-même, par système d'intelligence artificielle, se rendre compte qu'une série d'informations dangereuses pour les passagers se produisait et aurait pu, de façon autonome, reprendre la main sur le pilotage humain pour sauver les personnes. Donc, dans le fond, l'autonomie en soi n'est pas quelque chose qui, de fait, est dangereuse. Aujourd'hui, dans des machines chirurgicales, vous avez déjà, si on prend le robot Da Vinci par exemple, le robot de microchirurgie, vous avez des systèmes qui permettent de contrôler des gestes qui seraient des gestes déplacés, si vous voulez. Bon. Mais on peut imaginer, bon, sur les robots, les drones de surveillance, on a des systèmes qui permettent de contrôler des mouvements aberrants du pilote. Donc, dans le fond, avoir un système autonome qui comprend, qui prend des décisions à la place du chirurgien, etc., mais pour le bien du patient, etc., de l'ouvrage d'art que le drone inspecte, c'est tout à fait légitime. Bon. Mais l'autonomie implique une imprévisibilité qui, dans certains cas, peut, dans le fond, échapper et à la responsabilité de l'acteur humain. Donc, dans tous les cas, le caractère d'acteur responsable doit être maintenu. Oui ?
Oui. Pensez-vous que ce type d'arme autonome militaire est déjà actif ?
Est déjà actif ? Pour une large part, oui, dans le domaine, par exemple, sous-marin. Parce que l'autonomie dans un sous-marin ne peut pas être téléopérée en raison de la non-pénétration des ondes électromagnétiques. Donc, les personnes qui développent des systèmes de drones sous-marins pensent à doter ces systèmes d'une large autonomie. Bon. Donc si vous faites un système de drones sous-marins qui surveille des plateformes pétrolières, l'entrée des ports, etc., l'autonomie, dans le fond, s'impose et est développée. Mais le problème est de savoir, justement, dans quelle mesure puis-je maintenir ma responsabilité en utilisant des systèmes qui sont capables eux-mêmes de prendre des décisions que je n'aurais pas moi-même prévues. Et c'est dans ce sens-là où je dis une de mes balises pourrait être le maintien des conditions de responsabilité. Ça veut dire que je peux utiliser l'autonomie, mais les cadres dans lesquels j'utilise l'autonomie doivent être balisés de telle manière que l'ensemble des comportements autonomes soit strictement confiné à ce que je peux assumer comme responsabilité. Par exemple, je peux admettre d'utiliser des systèmes autonomes à condition que l'ensemble des comportements du système autonome et la zone dans laquelle j'utilise le système autonome soient suffisamment balisés pour que je sois totalement responsable éventuellement de tout ce que pourrait faire, même des choses peut-être différentes de ce que j'aurais voulu, mais reste dans les limites de ce que ma responsabilité peut assumer. Voilà. Mais évidemment, si l'ONU se pose des questions de l'utilisation des armes autonomes, des systèmes armés autonomes, c'est parce que dès maintenant, des projets de recherche les développent. Il y a 3 ans, quand on commençait les discussions sur les LOS à l'ONU, beaucoup de gens disaient que c'est un système fictif, enfin c'est de la fiction, il ne faut pas discuter des choses qui n'existent pas, etc. Mais à l'heure actuelle, on a des projets de recherche qui vont relativement loin dans ce sens-là. Alors, troisième balise, si vous voulez, que je proposerais, c'est le transhumanisme. Pense l'avenir de l'homme grâce à des augmentations des machines, des robots humanisés, des hommes robotisés, mais quelque chose qui doit nous guider, c'est le fait que l'homme est un être relationnel et qu'un certain nombre d'augmentations technologiques pensent un avenir indépendamment de la qualité ou de la profondeur des relations humaines. Et je prends un exemple. Dans bon nombre de gares aujourd'hui ou de banques, on a supprimé les guichets. Vous vous retrouvez devant des automates pour acheter votre billet de train. Vous n'avez plus des visages humains derrière les guichets de banque, ce sont des automates pour le plaisir, pour la rapidité. Bon. Mais dans le fond, on peut se poser la question de savoir est-ce qu'un objet, est-ce que ma visite à la banque, ma visite à un guichet de train avait nécessairement comme seul but de faire une opération utile. Bon nombre de personnes isolées pouvaient très bien aller à la banque pour rencontrer la seule personne qu'ils pourraient rencontrer de la journée. Quelqu'un pouvait aller simplement chercher un ticket de train, simplement pour avoir le plaisir de discuter 5 minutes avec quelqu'un qui lui fait un grand sourire, si vous voulez. On est parti du principe qu'il fallait augmenter les performances des services en oubliant que, dans le fond, un service n'est jamais seulement quelque chose de technique. On peut très bien aller faire ses courses parce qu'on a envie de voir des gens et acheter une petite chose, et simplement le plaisir d'aller regarder des rayons et discuter avec des personnes. Qui dit qu'un magasin est seulement le lieu utilitaire où vous devez acquérir les quantités de glucides nécessaires à votre survie quotidienne? Non, ce serait très malheureux, si vous voulez. Il y a beaucoup de choses qui, dans la vie, se passent par des médiations qui sont de l'ordre du relationnel. Mais la pensée de l'homme augmenté, des systèmes de plus en plus performants, n'ont pensé la performance que sur le mode de l'utilité et du pragmatisme. On a oublié que le relationnel était important. On a aussi oublié que les personnes avaient des limites. Je me disais en venant ici, en prenant le train et l'avion, je réfléchissais à ce que j'allais dire à ce propos. Bon. Et moi-même, j'ai été pris dans une drôle de situation parce que, arrivant à la gare et voyant un automate, étant un peu en retard, voyant 2 personnes devant moi, je me suis dit, si je commence à attendre que ces personnes prennent leur billet, je n'aurai jamais mon train. Or, si je ne prends pas ce train-là, je n'aurai pas mon avion, donc je n'arriverai pas à Philanthropos, donc je ne pourrai pas venir dans le Valais faire ma conférence, etc. Vous voyez, je commence à angoisser et donc je me dis, bon, je ne prends pas mon billet à l'automate parce que je sais qu'il y a une possibilité de prendre le billet dans le train et il y a sûrement un contrôleur, etc., qui a une machine. Zut, je n'ai pas d'argent sur moi, mais ouf, j'ai ma carte bancaire, tout va bien, je me détends, j'ouvre un livre et voilà que la journée s'annonce merveilleuse. Bon, j'attends vainement le passage du contrôleur qui ne vient pas, et je me dis, mais il me faut mon billet, parce que je ne sais pas si c'est comme ça, je ne pense pas que ce soit comme ça à Genève, mais à Bruxelles, si vous n'avez pas votre billet pour entrer à l'aéroport, ben, vous êtes bloqué sur le quai, vous ne pouvez pas entrer dans l'aéroport sans scanner votre billet. Bon. J'attends enfin un visage rayonnant d'une jeune dame qui vient contrôler mon billet. Tout content, je lui dis, ah, vous me sauvez, je vais prendre mon billet, je vous donne ma carte. Monsieur, excusez-moi, je n'ai pas de connexion, je ne parviens pas à avoir la connexion Internet, le système a un problème, j'ai téléphoné, ça ne marche pas, etc. Bon, est-ce que vous avez de l'argent? Ben, non. Bon. Donc, ah, mais ça, je ne peux pas vous donner de billets. Je dis, peut-être vous pouvez faire quelque chose à la main. Ah non, 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 oh, vous comprenez bien, on est quand même à une autre époque, m'a-t-elle dit. Bon, elle avait probablement 15 ans de moins que moi, et me regardant, me disant... quel est ce vieux personnage préhistorique qui veut que j'écrive? Bien, je suis arrivé à la gare et gentiment, elle me dit, mais vous savez, si vous demandez aux agents de sécurité, vous pourrez prendre votre billet à un automate de la gare. Bon, je me présente à l'automate de la gare et je dois avouer que j'étais un peu nerveux. quand on est un peu nerveux, vous vous tapotez sur le clavier, vous ouvrez des pages et vous voilà parti de un billet avec hôtel compris, séjour agréable, etc. sur la côte belge. Mais non, c'est pas ça que je veux, etc. Bon. Et je m'énerve, etc. Bon. Et il m'a fallu l'assistance de quelqu'un qui a dit mais que se passe-t-il, etc. Avec deux militaires derrière elle et bon. Voilà. Donc ça, c'est un petit exemple. Enfin, j'ai eu mon billet parce qu'on me l'a fait. Mais je dis ceci, si vous voulez, je suis philosophe, je n'ai pas toujours les yeux en face des trous, etc. Moi, je n'ai pas bien pensé les choses. Bon. Mais on peut imaginer, si vous voulez, que le fait de s'énerver, ou bien le fait simplement d'un peu trembler, si vous voulez, a-t-on pensé à des interfaces, si vous voulez, où, dans le fond, toute personne n'est pas nécessairement physiquement, ou bien mentalement, ou bien du fait des circonstances, capable d'interagir avec la machine. Autrefois, si vous voulez, relationnellement, j'aurais demandé un billet au guichet et la personne me l'aurait fait rapidement, même si c'était une formule un peu compliquée, etc. Là, des choses ne sont pas prévues, mais en plus, l'interface fait que l'interface peut créer elle-même des problèmes, si vous voulez. Donc, il y a quelque chose dans le lien à l'interface technologique qui n'a pas pensé la finitude ou les limites, ne fût-ce que même visuelles. Il me faut mes lunettes pour regarder, etc. C'est écrit tout petit, il faut changer de langue, etc. Mais j'avais vu un jour une personne, de fait, un peu parkinsonienne, qui ne parvenait pas, donc j'avais dû l'aider. Mais ça, c'est, dans le fond, intéressant comme phénomène. On va augmenter, mais dans l'augmentation, on a perdu aussi le caractère relationnel. Et si on veut augmenter, il faut maintenir quelque part la qualité relationnelle et la prise en compte des finitudes et des fragilités des personnes. On ne pourra pas augmenter l'homme si on ne réserve pas une certaine place à la fragilité de l'être humain. Et c'est quelque chose qui est intéressant, probablement, de maintenir comme référence au développement, finalement, comme référence du développement de l'augmentation des capacités humaines, etc., et de son avenir, de maintenir la référence aux personnes les plus fragiles, aux maillons faibles, si vous voulez. En faisant ça, dans le fond, on maintient le caractère humain d'un développement technologique. Parce que s'il y a bien une caractéristique de l'humain, parce qu'on peut mesurer l'humanité aux capacités artistiques de des grands peintres ou aux capacités intellectuelles d'Einstein, etc. Si on peut mesurer l'humain à cela, peut-être que peu d'entre nous, peut-être parmi vous, il y a des grands génies artistiques, etc. Je ne veux pas critiquer. Mais bien souvent, que restera-t-il de l'humanité si on prend ça comme référence, si vous voulez ? Qui peut peindre la Sixtine, écrire les équations de la relativité générale d'un coup comme ça ? Bon. C'est vrai que ça fait partie de l'humanité. Mais comme disait Xavier Le Pichon, ce professeur du Collège de France, qui est aussi membre de la communauté de l'Arche, il disait, si on définit seulement l'humain à partir de cela, peut-être qu'on risque d'avoir une image tronquée de l'humanité. Par contre, peut-être que si on définit l'humain dans ses capacités d'attention aux plus faibles, alors on a quelque chose qui, dans le fond, se rapproche du cœur de l'homme. Car qu'est-ce qui est plus humain, hein, qu'est-ce qui est plus humain? Eh bien, une attitude de plus en plus humaine est une attitude de plus en plus qui accepte de mettre un frein à la maîtrise, à la violence, et qui protège le vulnérable. Qu'est-ce qui est inhumain? C'est les attitudes qui écrasent le pauvre, le faible. Bon, chose curieuse, dans la conclusion du grand livre de Darwin sur l'homme, La filiation humaine, Descent of Man, il y a un petit passage qui dit « La partie la plus noble de l'homme, c'est quoi ?» Hein, on a dit, on a jugé souvent Darwin au travers du prisme du darwinisme social, de l'eugénisme, de toute cette perversion que le cousin de Darwin, Galton, avait mise en œuvre et qui a servi de base au régime totalitaire du XXe siècle. Mais Darwin n'a jamais été dans cette direction-là. Et à la fin de son livre sur The Descent of Man, il dit « La partie la plus noble de l'homme, c'est quoi ?» C'est de faire des lois pour les pauvres, de construire des hôpitaux, des asiles pour les personnes aliénées, etc. C'est donc, dans le fond, la partie la plus noble de l'homme, c'est cette capacité de réserver une place aux fragiles. Darwin dit, l'homme est un être sélectionné par la sélection naturelle, mais qui a cette grande capacité de mettre un frein à la sélection naturelle. Et donc, dans le fond, un développement de notre technologie, une augmentation de l'humain, ne sera, dans le fond, compatible avec l'humain que si ce développement réserve quelque part une place à la personne fragilisée, qui devrait d'une certaine manière être comme une sorte de référence à notre agir technique. Pensez le développement de l'informatique en pensant à ceux qui, dans le fond, ne comprennent rien au computer. Pensez le développement des guichets électroniques en pensant que quelqu'un peut avoir la main qui tremble et ne pas pouvoir accéder à une page importante. Pensez le développement des systèmes robotisés en ayant en tête l'idée des personnes qui pourraient être plus fragiles et être enfermées et capturées par ce monde. Balise qui me semble extrêmement importante et qui donnerait raison à cette phrase de Xavier Le Pichon qui disait au terme de ce beau livre « Aux racines de l'homme », c'est pour cela, dit-il, et je le cite, que ce sont les membres les plus faibles, les plus marginalisés, les plus atteints de la société qui, depuis le début, ont eu le pouvoir de l'attirer, cette humanité, hors du monde animal, ou au contraire, lorsqu'ils sont rejetés, les plus faibles, de la rabaisser au plus bas niveau. Les membres les plus faibles, les plus marginalisés, les plus atteints de la société ont ce pouvoir de tirer hors du monde animal l'humanité et au contraire, lorsqu'ils sont rejetés, de la rabaisser au plus bas niveau. Dans ce sens-là, on pourrait dire que, comme dans beaucoup d'autres domaines, il pourrait être encore intéressant de suivre le conseil que Vincent de Paul donnait à ses sœurs quand il disait « Les pauvres sont nos maîtres ». Les pauvres et les fragiles pourraient être des guides dans le développement de ce qui pourrait être une véritable augmentation de l'humain. Et j'en viens à ma dernière balise. On ne pourra pas développer réellement une technologie, une augmentation des moyens qui augmentent l'humain en vue d'un avenir humainement durable que si on respecte quelque chose qui est profondément humain, qui est l'ouverture de l'humain à la transcendance. Pourquoi ? Parce que l'homme, comme dit justement Pascal, l'homme passe infiniment l'homme. Il y a en l'homme une capacité de se dépasser, d'aller au-delà de lui-même, de s'ouvrir à ce qui n'est pas lui, au-delà de lui. Et le transhumanisme, dans le fond, voit quelque chose de juste. L'avenir de l'homme ne peut être qu'en avant de l'homme. L'homme ne pourra pas se contenter d'être simplement ce qu'il est. Il est un être qui est toujours poussé au-delà de ce qu'il est, de ce qu'il pense être, de ce que les autres disent de lui. L'homme passe infiniment l'homme. Donc la référence à la juste transcendance sera une condition nécessaire, dans le fond, de empêchant le collapse, de l'effondrement de l'augmentation de l'homme. C'est aussi ce qu'avait peut-être intuitionné dans un autre domaine Bergson, lorsque dans les deux sources de la morale et de la religion, il parlait de la nécessité des sociétés ouvertes et des morales ouvertes par opposition aux sociétés closes, qui se referment sur elles-mêmes et qui définissent à l'intérieur d'elles-mêmes leurs références transcendantes, mais qui ne sont que des idoles qui vont les enfermer. Et dans le transhumanisme, il y a le risque de définir simplement l'humain à partir de critères strictement humains. Or, quand l'humain se donne l'humain comme seule définition de ce qu'il est, il devient moins que lui-même. Lorsque les utopies ont essayé de définir l'homme à partir simplement des désirs et des représentations de certains hommes, ils ont simplement enfermé les humains dans une clôture qui les a asphyxiés. Quand l'humain pense seulement l'urbanisation, en pensant l'idéal de ce que devraient être des cités à partir simplement de leurs propres idées, on a souvent du béton partout et des environnements qui ne sont plus humains. Alors, cette référence à la transcendance est très importante et quelqu'un qui avait pensé ce dépassement, d'une certaine manière, c'était Théard de Chardin. Donc Théard de Chardin, dans le fond, a, dans la deuxième partie de sa vie, c'est-à-dire dans cette partie où il va au-delà du phénomène humain, et où il pense, c'est le titre d'une de ses œuvres, « L'avenir de l'homme », Théard avait senti qu'il n'y a pas de véritable avenir de la technologie et des sociétés sans référence à une véritable transcendance. Mais, chose curieuse, comme l'ont fait remarquer une série de personnes, dont d'ailleurs Xavier Le Pichon, Théard a pensé la transcendance dans le prolongement simplement d'une performance technique. Donc Théard a insisté sur la transcendance, mais il a vu dans le progrès quelque chose qui suivait seulement la performance. Et il a peut-être justement oublié ce qui constituait ma balise précédente, qui était le rapport aux fragiles, aux pauvres, aux souffrants. Théard a minimisé, d'une certaine manière, le poids de la souffrance, la référence à ce qui, dans le fond, dans le monde, est ce qui, d'une certaine manière, est le poids du mal, le poids de la souffrance physique et morale, en ne pensant que la transcendance, mais sur le schéma d'une espèce de progrès croissant, voyant le reste comme des espèces de perturbations statistiques. Donc, dans le fond, dans le transhumanisme, et peut-être que Théard est intéressant pour ça, il montre qu'il y a peut-être une juste conception de la transcendance qui pourrait même avoir un sens chrétien. Il y a, dans le fond, on pourrait dire de façon un peu paradoxale, que peut-être que la vision chrétienne est d'une certaine manière une forme de transhumanisme, puisqu'elle nous renvoie bien au-delà de l'humain, avec une image de l'humain qui est l'image de l'homme-dieu, c'est-à-dire la véritable façon d'être pleinement humain, c'est de fixer les yeux sur celui qui est à la fois homme et Dieu. Donc, la dernière balise que je voudrais donc proposer, c'est dans le fond de ce refus de l'enfermement simplement sur les désirs, les fantasmes, les représentations de l'homme. Pour que l'homme soit véritablement augmenté, il doit viser bien au-delà de lui-même. Et c'est intéressant de voir que sous la plume de Théard et deux chercheurs de parisiens, un professeur d'histoire, Olivier Dard, et Alexandre Moati, un chercheur de Paris 7, avaient repéré sous la plume de Théard des tas de termes qui vont dans le sens du transhumanisme. Théard a parlé dans l'avenir de l'homme de trans-hominisation, de trans-humain, du verbe trans-humaniser, mais pas du tout dans le sens des transhumanistes, en fait. Il en a parlé dans le sens d'un dépassement de l'homme en direction d'une véritable transcendance. Monseigneur Bruno de Solages, l'ancien recteur de Toulouse, qui avait défendu Théard très souvent, Théard cite et signale à Bruno de Solages la chose suivante. Théard dit « Je ne diffère de Huxley que parce que je pense que la noosphère, qu'il admet juste aussi résolument que moi, ainsi que la plupart des observations présentées dans mon article, cette noosphère ne peut biologiquement s'achever que dans un hypercentre de personnalité. » En fait, dans le fond, pour Théard pense, dans le fond, de façon juste, le transhumanisme sur le fond d'une véritable transcendance. Mais si le transhumanisme prend comme référence seulement humain, il s'asphyxiera. Pour que le transhumain soit vraiment toujours humain, il doit dans le fond penser quelque chose qui l'envoie au-delà de lui-même, justement parce que l'humain ne peut être humain qu'en référence à un au-delà de l'humain qui l'attire et qui évite de le renfermer sur lui-même. Cette transcendance ne pourra être pensée que sur le mode d'une attention aussi à ce qui manifeste la véritable transcendance, c'est-à-dire l'être pauvre, fragile, celui qui peut-être n'a plus rien, qui n'a plus rien parce qu'il a tout donné. Mais n'est-ce pas là, d'une certaine manière, quelque chose de la transcendance au sens où on la comprend dans le christianisme, puisque à la fois notre Dieu est tout-puissant, mais tout-puissant d'amour, c'est-à-dire avec cette capacité de ne pas retenir jalousement le rang qu'il égale à Dieu et de se faire infiniment le serviteur pauvre et petit de tout humain. Et donc, je terminerai en disant, loin d'être technophobe, je suis d'une certaine manière content que se développe grandement la technologie. Autrement dit, il y a quelque chose dans cette augmentation de l'homme par des capacités technologiques, quelque chose qui est fondamentalement humain. L'homme continuera à faire des outils, à s'augmenter, à se simplifier la vie par des outils technologiques. Mais encore faut-il que cette augmentation ne le détruise pas, et cette augmentation ne sera pas contradictoire avec ce qu'il est, si cette augmentation reste pleinement humaine, et elle ne pourra rester pleinement humaine que si elle conserve la dimension relationnelle, si elle conserve la capacité de l'homme en tant qu'être responsable de ses actes, ce mouvement ne pourra aller vers un avenir durable que si elle s'ouvre à une véritable transcendance et à un respect des plus faibles. Condition nécessaire pour que l'homme puisse s'augmenter sans se diminuer, devenant faible, mais pour déployer toutes les ressources de la faiblesse qui est d'une certaine manière le ressort de la véritable grandeur. Je vous remercie.